qu'elle se moque.
Eh ben, monsieur Triboulet, merci. Ben, non seulement je suis un feignant selon Monique, mais en même temps, je comprends rien à la technique. Car Didier Malherbe, vous avez une petite réverbe, c'est ça?
Ah oui, ça serait bien.
Une petite réverbe, je ne sais pas ce que ça veut dire, c'est pas possible. Alors, on est bien sur Radio Libertaire au 01 43 71 89 40. Radio Libertaire, c'est la radio sans Dieu ni maître de la Fédération anarchiste, mais avec des yeux, avec des lettres, monsieur Coda, vous le savez pertinemment.
Absolument.
Donc, on est bien dans, sur Onde de Choc, le dernier comptoir où l'on cause, l'émission qui peut faire et défaire les carrières à loisir, y compris. Bah pour la énième fois de Claude Brabant, la carrière ça marche, la revue du temps. Hein. Tu roules sur l'or, là. C'est très bon, c'est très bon. Triboulet,
oui.
Shabbat, toujours aussi dynamique, c'est parfait, oui. C'est un plaisir.
Plus que vous.
Je sais que je ne me suis pas rasé, mais ce n'est quand même pas une raison. Malheureusement, M. Coda, on a plein de choses à se dire, M. Coda, bien sûr.
J'attends avec impatience.
D'accord. Et puis, Didier Malherbe, vous n'êtes jamais venu ici?
Bonjour, bonjour. Oui, il y a fort longtemps.
Oui, vous étiez petit à l'époque.
Oui, c'est-à-dire que je jouais avec ce groupe qui s'appelait Gong, on était assez... on passait sur Radio Libertaire.
D'accord. Vous avez commis un livre, c'est mauvaise action
j'ai
aussi.
J'ai commis deux livres même, c'est des sonnets, parce que moi, je n'écris que des sonnets. Alors, c'est comme ça.
Escapade en Facili, c'est au Castor Astral, Lucarne des Écrivains. Et voilà. Et bien vous, monsieur, vous avez quand même commis pour un énième livre, là.
Oui, le 45e peut-être.
Assaut et à Gambade, oui. Jacques Coda, Philippe Pichon, aux éditions
Arnavena. Voilà. Philippe Pichon qui a été préfacé par Jacques Reda, dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Mon collègue là sur ce livre.
Et alors, bien sûr, on est empreinte numéro 44. Alors si j'ai bien fait un calcul, ça fait 22 ans.
Ah ouais.
C'est ça? Parce qu'en fin de compte, c'est la nouvelle série, ça, 44, non? Il y avait une série avant qui était blanche?
Non. La première série, elle va jusqu'au numéro 8, mais c'est pareil, elle était semestrielle. Donc, ça fait 22 ans, voilà.
Alors, on est le 7 octobre, on en parle suffisamment à droite, à gauche. Il y a un an exactement, je faisais une émission il y a deux jours après les événements sur la mort de Frédéric Tison. Frédéric Tison, les choses ne sont pas arrangées, ça s'est même détérioré. Hein. Ce matin, j'allume la France Info de Bonheur, comme ça, et c'est très drôle dans quel monde on peut vivre. À un moment donné, il y a un type qui dit, à Gaza, on a dénombré 100 000 morts, 900 000 blessés. Il commence à nous faire nous parler des traumas que tout ça peut engendrer, je me doute, chez les gosses surtout. Il y a une toute petite page de publicité, et juste après, sans même transition, on nous parle du footballeur Ronaldo, footballeur portugais, qui gagne 200 millions par an. Mais comme si c'était sur la même chose.
C'est pour ça que je ne supporte pas les médias, moi.
Voilà. Et là, à l'époque, dans notre impuissance totale à tout ça, il faut déjà comprendre quelque chose, j'avais cité la fameuse phrase d'Adorno, qui disait face à Hiroshima, il n'y a pas de littérature ni de poésie possible après Hiroshima. Alors on peut penser que c'est même le contraire, que justement la littérature doit exister, la poésie aussi.
Après Auschwitz.
Mais alors, on s'est battu avec quelqu'un qui était là. Oui, on n'était pas tout à fait d'accord.
Sur la citation.
Oui.
Oui, j'ai la citation avec Auschwitz et pas Hiroshima.
Donc comparaison n'est pas raison, mais c'est quand même la même teneur.
C'est le même sens. Oui, nous sommes d'accord.
C'est toute l'absurdité humaine. Et j'engage, c'est le dimanche soir de 17h à 17h30 sur la 5, il y a une émission historique qui est faite par Jérôme Prieur, c'est toujours bien, bien foutu, et il montre l'état d'esprit des gens allemands, en Allemagne, entre 39 et 40, entre 39 et 43, 44. Et on s'aperçoit, c'est exactement ce qu'on vit maintenant, alors comparaison n'est pas raison, hein. C'est que les gens n'y comprennent rien.
Non.
Comprennent rien. Pourquoi l'alliance, le pacte germano-soviétique brusquement est brisé? Est-ce que les Juifs, ce qu'on dit sur les Juifs, c'est juste ou pas? Il y a même un con qui dit, qui souhaite pouvoir rester à la guerre pour pouvoir épouser sa fiancée. Comme ça, il aura un grade de plus. Le mec, un an plus tard, il est en train de crever sur le front russe. Mais c'est tout ça, on n'y comprend rien. Alors, je dis pas ça pour avoir bonne conscience ou pour... voilà, mais c'est une pagaille...
C'est la confusion.
La confusion totale. Avant qu'on commence, vous serez, vous, Claude Brabant, je suppose, au Salon de la Revue?
Alors, je serai au Salon de la Revue le week-end qui vient, là. Le vendredi soir, le 11, le 12 toute la journée, et le 13, le dimanche, toute la journée, à la Halle des Blancs-Manteaux. Ce qui est dans le Marais, voilà. C'est le salon de la revue, il y a des revues internationales, il y a des revues de toutes sortes, c'est pas seulement de la poésie, pas du tout.
Et vous occuperez un stand avec Intoto?
J'ai un stand avec, non, Intoto a son stand, et moi j'ai mon stand, comme chaque année.
Vous êtes l'un côté de l'autre?
On est l'un à côté de l'autre,
on ne peut pas se perdre. Et je rappelle, mais ça j'y reviendrai, que le 26 octobre, 15h-17h, à la Halle Saint-Pierre, il y aura le lancement d'Intoto numéro 6.
D'accord.
Voilà, tout le monde y sera. Vous aussi, Monsieur Coda.
J'ai un point d'interrogation parce que j'ai un autre...
Je ne veux pas le savoir.
J'avais complètement oublié de t'en parler. Je t'en parlerai plus tard.
Vous serez au Salon de la Revue ou pas?
Oui, je passerai. Hein. Je passe, oui.
D'accord.
Comme j'écris à peu près dans toutes les revues qui sont présentées là-bas au Salon.
Alors... empreinte numéro 44, bien sûr, je l'ai lu avec la plus grande attention, et c'est là que j'ai appris sur le tard que, effectivement, l'ami Gibbetson était mort.
Ouais.
Tu le savais ou pas?
Non, je ne savais pas. J'avais décidé de mettre des peintures de lui dans empreinte, et je voulais le prévenir. Je savais qu'il était d'accord, mais je voulais le prévenir. J'ai téléphoné au mois de juillet chez lui, je ne suis pas arrivée à la voir. J'ai téléphoné plusieurs fois. Après, j'ai téléphoné à un copain, à lui, qui m'a dit qu'il était sourd et que c'est normal qu'il n'entende pas le téléphone. Et puis, en fin de compte, en juillet, il avait fait une crise cardiaque. Il était à l'hôpital et il est mort à l'hôpital. Voilà.
86 ans?
Oui, je pense, oui.
D'accord.
Oui.
Tu l'avais exposé, toi?
Je l'ai exposé plusieurs fois, oui.
À l'usine?
Oui.
Je ne sais pas, tu connaissais Gibbons? Non,
non. D'accord. Je ne connaissais pas.
Il a toute une histoire.
Gibbetson, il a été situationniste, il a été libertaire, il a été pataphysicien.
Ah, comme moi.
Voilà.
Et je ne le connaissais pas.
Donc, il a fréquenté...
Et surréaliste aussi.
Il a fréquenté Breton.
Je ne crois pas, non. Je ne crois pas que ça a été jusque-là, mais il était à la galerie surréaliste 2000. Hein? Marcel Flesch, il a des tableaux de lui, je crois. Donc il a aussi été considéré comme un peintre surréaliste.
Il a fréquenté les surréalistes, il a été à l'AFA, Fédération Anarchiste.
Il a été à l'AFA.
Qu'il a quitté parce qu'il il s'est lié avec Debord et les situationnistes.
Voilà, il a connu Debord, il s'est lié avec les situationnistes. Voilà. Et puis il a fait les amis d'Alfred Jarry aussi, il était donc pataphysicien.
Pataphysicien, vous êtes pataphysicien?
Oui, je fais
Mais c'est un peu tout et n'importe quoi, la pataphysique. Hein.
Oui, c'est un peu la définition. Non, là je suis méchante langue. C'est pas tout et n'importe quoi, mais il y a quelque chose comme ça dans l'air, dans la définition de la pataphysique. C'est quelque chose de très sérieux surtout. C'est presque ennuyeux par moment.
Comment on devient pataphysicien?
Je ne sais pas, je ne me suis pas interrogé sur mon cas propre. Je sais que j'ai assisté à différentes réunions. ce n'est pas passionnant, c'est très érudit.
Et c'est ça. Il y a trop de références.
Voilà, c'est presque chiant par moments.
Ça devient arithmétique.
Voilà,
ça, c'est l'impression que j'ai du dehors, c'est très chiant.
Oui, bah, c'est réel.
C'est très
réel,
pépère.
C'est réel. Alors, donc,
c'est pas chiant du tout. Hein,
et à lire la revue est passionnante.
Je veux dire que la pataphysique est très intéressante. Elle-même, Jarry, c'est fabuleusement intéressant. Mais il y a j'ai envie de dire que tout le monde se trouve pataphysicien. Si tu savais le nombre de pataphysiciens que je connais.
Moi j'ai une carte avec ma photo et tout le cirque, un numéro. Je suis au ras des pâquerettes.
Ah bon.
Simple troufion.
C'est comme les francs-maçons.
Pas vraiment.
Oh non.
Donc tu as été chercher un auteur qui s'appelle Maurice Renard.
Oui.
Qui est
un auteur des années 1920.
1920, oui, c'est ça. Voilà. Puisqu'il meurt en 1939.
Est un auteur de science-fiction, mais une science-fiction à la française.
Oui.
C'est-à-dire pas beaucoup de science et beaucoup de poésie et de fantaisie.
Voilà. Alors. Il est connu pour une chose, Monsieur Kodak, qui n'écoute absolument rien, mais qui a une grande culture cinématographique. On lui doit les mains d'Orlac.
Les mains d'Orlac,
ouais.
Ah oui.
Tu connais les mains d'Orlac?
Oui, bien sûr.
Qui c'est qui joue dans Peter Law? Non. Qui c'est qui joue du piano là-dedans?
Je sais plus.
J'ai pas quelqu'un en mémoire les mains d'Orlac, non? C'est un pianiste qui s'est tué. Et ses mains continuent à
jouer, oui.
C'est ça, non?
Ouais.
Et qui joue, tu sais pas?
Je sais pas, je sais plus. Non.
Bon. Donc, moi, c'est pas le mot science-fiction que je retiens, c'est ce qu'on appelait le réalisme poétique. C'est Macorlan, c'est des gens comme ça, c'est Marguerite de la Nuit, c'est le Quai des Brumes, c'est tout ça.
Ah non, pas du tout, ces sujets sont tout à fait des sujets d'imagination complète.
Imagination.
L'île Péril Bleu, Un homme chez les microbes, tout ça, c'est tout à fait c'est de la science-fiction.
Mais Marguerite de la Nuit, il rencontre quand même le diable. Hein.
Oui.
Dans Marguerite de la Nuit, c'est la rencontre.
C'est
fantastique.
Voilà.
Fantastique, poétique.
Voilà. Fantastique, je dirais. Ouais. Un petit peu. Enfin, entre les deux. Entre le fantastique et la science-fiction.
Didier Malherbe. Oui. Il faut travailler sur Onde de choc 89.4.
Onde de choc.
Voilà, ça va. Voilà.
Bien sûr.
On écoute. Et puis on va partir. On va partir et on a une petite observation à vous, monsieur Codard.
Oui.
Et puis après, on reviendra sur Empreinte.
D'accord.
Je vais jouer un morceau à la mémoire du regretté grand poète Jacques Reda, qui était aussi un amateur de jazz, naturellement, comme on le sait. Et donc, je vais jouer St. James Infirmary, qui était ce qu'on jouait à la New Orleans dans ce genre d'occasion.
Jazz. Oui, c'est du jazz, ça.
C'est
du jazz.
Ah, plutôt que c'est du jazz. Le son est arménien, parce que c'est un doudouk arménien.
Ça existe aussi, le jazz arménien. Hein.
Oui.
Le jazz arménien existe.
C'est juste arménien. D'ailleurs, il y a un morceau qui ressemble tout à fait, mais peut-être je vous le jouerai tout à l'heure. C'est un morceau qui commence pareil, mais qui est du 18e siècle d'un compositeur arménien. Il commence pareil. Mais j'ai peur que ce soit trop long, donc peut-être je le referai plus tard.
Donc, Monsieur Coda, vous avez commis Assaut et à Gambal, Jacques Coda, Philippe Pichon, c'est ça?
C'est bien ça.
Donc, si on va répéter quand même.
Pierre d'Avena.
Pierre d'Avena. Hein,
jeune éditeur basé à Saint-Malo.
Donc vous vous définissez non pas comme un polémiqueur ni un polémiste, mais pour un, comme un polémiqueur, c'est ça?
Je ne sais pas, je crois que j'ai écrit une petite horreur, comme un polémiqueur qui vient du verbe niquer, c'est ça? C'est ça que vous voulez sous-entendre? C'est pas moi qui le dis.
Monsieur Codal, vous dites je ne sais pas, mais vu tout le livre, c'est une question sérieuse, que c'est pas du tout plaisant. Ouais. Avec tout le livre que vous écrivez, est-ce que vous vous souvenez encore de ce que vous écrivez?
Oh non, il y a des choses que j'ai complètement oubliées. Il m'arrive quelquefois même d'écrire la même chose, de refaire un livre que j'avais déjà publié. Oui, c'est pour l'éditeur surtout. Moi, je m'en fous un peu.
Mais autant produire, est-ce que c'est pas une façon d'oublier quelque part?
Je sais pas. Oublier quoi?
Oublier ce qu'il y a dans ne plus revenir. Ne plus revenir.
Ou à l'inverse, y revenir constamment. Y revenir
ça,
constamment.
C'est
la répétition, c'est le sérieux de la vie et le réel, disait Kierkegaard.
Alors, j'ai lu ce livre, c'est pas très insurrectionnel. De temps en temps, on se croirait dans la gare des Michards.
Hein. Ah ben, c'est fait pour ça.
On passe quand même par un palmarès de Céline à Proust, en passant par, par Colette et par Alain Fournier.
Oui, il y a Jacques Brel, même, je vois.
Jacques Brel.
Voilà, Jacques voilà. Brel.
Par contre, vous, tout à l'heure, on fera une petite dérive. Dérive. Il y a un écrivain, ça m'a fait plaisir que vous reveniez dessus, c'est Albertine Sarrazin.
Ah oui.
Et je me demande qui se souvient encore d'Albert.
Oui.
Ça dit quelque chose, Albert?
Ah bah, tu
d'accord.
Ah
oui,
complètement. C'était important, même.
Très important.
Mais
amoureux. Amoureux, oui, j'ai découvert adolescent.
Non, naturellement, je sais qui c'est, mais je ne l'ai
d'accord.
pas lu.
D'accord.
Et puis son histoire, c'est.
Alors oui, c'est le problème. Est-ce que vous l'avez relu?
Oui, je l'ai relu.
Dernièrement?
Oui, pour écrire d'ailleurs.
Et ça tient ou pas?
Oui, ça tient. Ça tient. C'est un écrivain.
C'est pas seulement un phénomène d'empathie.
Non, c'est pas ni d'émotion d'ado qui t'a trouvé très belle. Et en plus, voilà. elle était prostituée. Il y avait tout un tas de fantasmes.
La tôle aussi.
La tôle.
Il y a des poèmes de prison, c'est ça. Il y a des poèmes de prison.
Oui. Et de son mec. Je sais plus comment il s'appelle.
Julien,
dont j'étais très jaloux. En plus, il était picard comme
moi. Il n'avait pas cassé la gueule, non, rien.
Non, mais en plus, il était très.
C'était
du milieu.
C'était un malaise. Il a écrit La cavale,
et puis la traversière.
Voilà.
Et puis pas mal de lettres de prison, et un journal. Et bon, elle est morte en clinique, elle s'est fait opérer un peu par n'importe qui. Et je crois qu'elle ne s'est pas réveillée ou quelque chose comme ça. Et c'était une brutalité folle, puisqu'elle avait sans doute d'autres choses à écrire. Oui. Elle était. C'est un écrivain.
C'est la question que je me suis posée. Est-ce que c'est un.
Tu l'as relu, toi? Tu l'as relu ou pas?
Je l'ai relu il y a longtemps, justement. Il y a une dizaine d'années.
Ça avait
gardé. Oui, ça tient, moi aussi, c'est pareil. On s'est battu pour elle, hein. On s'est tous battu pour Albertine, faut pas croire. Oui, oui. Oui, c'était quelque chose. Bon, on va revenir là-dessus, sur tes goûts, etc.
Volontiers.
Puisque je réitère, nous avons des yeux et des lettres sur Radio Libertaire.
Oui.
Bon, Triboulet, faut peut-être travailler aussi. Hein. Il y a quelque chose. Ah oui, qui est très beau. C'est Le Conte aux Étoiles.
Très beau.
Oui, bah alors on dit ce que c'est.
Oui, on dit ce que c'est. C'est des petits contes écrits par des chansonniers de l'époque 1900.
Page 35.
Et qui ont été dédicacés, enfin écrits pour des stars de l'époque. Donc les étoiles, en fait, c'est pas les étoiles du ciel, c'est des stars du théâtre ou du. Voilà. Et donc il y en a qui sont dédiés à Sarah Bernhardt et d'autres à d'autres vedettes de l'époque 1900. C'est d'un mauvais goût étonnant.
Pas tant.
Délicieux.
Mieux, on ne peut pas faire, à mon avis. Et voilà. Et c'est amusant parce que, comme ça doit ne pas pouvoir être attaqué par la censure, alors rien n'est dit, tout est détourné, tout est suggéré, et c'est atroce.
Voilà. Et tout est à double sens.
Et tout est à double sens, et c'est d'une obscénité.
Total. On va donner un exemple. Monsieur Triboulet, le chat de grand-mère, oui, ça vous tente? C'est un sujet que vous connaissez, monsieur Triboulet.
Ça ne tente pas trop.
Moi, le chat de ma grand-mère ne m'aurait pas tenté, mais bon.
Allez-y.
Qu'un autre comme moi glorifie les prouesses de nos guerriers et tous ces exploits meurtriers dont le souvenir terrifie. Moi qui, dans un gai quolibet, plaisantais les héros d'Homère, je chante sur le galoubet le vieux chat de grand-mère. Il avait la moustache épaisse et gueule rose au fin contour. Bref, c'était des chats d'alentour le plus gourmand de son espèce. Lecteur grivois, n'espérez pas qu'aujourd'hui je vous énumère par le menu chaque repas du vieux chat de grand-mère. Ceux qui l'ont vu dans sa jeunesse savent qu'il charma bien des yeux par l'éclat de son poil soyeux, noir et d'une grande finesse. Depuis qu'il est chauve, il pâtit, et trouvant l'existence amère, il bâille. Et n'a plus d'appétit, le vieux chat de grand-mère. Si l'on en croit une voisine qui jadis connut l'animal, sous prétexte qu'il vivait mal, 20 fois il changea de cuisine. Et quand la faim le harcelait, à ce qu'ajoute la commère, ce n'est pas du mou qu'il fallait au vieux chat de grand-mère. Sa vie appartient à l'histoire, car grand-mère un jour m'a conté que son chat fut longtemps fêté par un membre du directoire. Comme il sentait le jacobin, soit en floréal ou brumaire, tous les jours il prenait un bain, le vieux chat de grand-mère. La sombre année où le Cosaque nous couvrit de honte et de rats, accablé par les scélérats, il se fit frotter la casaque. Il voulait vaincre, et je l'absous, d'avoir nourri cette chimère. Mais il eut toujours le dessous, le vieux chat de grand-mère. En plein jour, comme à la nuit close, il fallait voir notre héros avaler le rat le plus gros comme un requin gobe une alose. En étrangla-t-il le vaurien. Mais toute gloire est éphémère, car il n'étrangle, hélas, plus rien, le vieux chat de grand-mère.
C'est super, le Monique. Hein, ouais. Je vous l'ai réservé tout à l'heure, je ne vous ai pas dit bonjour à l'antenne, bonjour. Mais je vous l'ai réservé. Hein. C'est super, non?
Délicieux.
Ouais. Comme ça. Mais ça, c'est toutes les chansons enfantines, les textes qui apparaissent. Par exemple, Au clair de la lune, Ardelais a fait un très beau texte racontant qu'est-ce que c'est que cette histoire. On voit un type en plein minuit qui n'a plus de plumes, qui fait toc-toc chez la voisine pour qu'on lui rallume sa chandelle. Ça ne tient pas debout. Si on prend Fleur d'épine, fleur de rose, tu prends un dictionnaire érotique, la fleur de rose, tout le monde sait ce que c'est.
Moi, le chat de grand-mère, ça me fait penser à ma mère.
D'accord. À moi, papa Freud. À moi, papa Freud.
Pourquoi pas?
À moi, papa Freud. Tu as aussi le furet, il court le furet. Tout le monde sait que c'était un abbé de Louis XV, je crois, là, et qui courait, son furet courait après toutes les...
Ah, oui.
Après, voilà. Donc tout ça passe, c'est la vertu de la langue populaire, enfantine, qui est extraordinaire. Voilà.
Ouais.
Et là, j'avais reçu il y a quelque temps un service de presse, il y a un type qui s'est promené à Pigalle, qui s'est promené à Blanche, et qui a fait un truc sur tous les titres des films porno. Mais c'est hilarant. Je ne sais même pas comment une morale peut se dresser contre ça. Quand tu vois 20 milieux sous mes mères, c'est extraordinaire.
Oui, c'est
quand tu vois ma chatte n'aime pas le mou, c'est pas très raffiné, mais quand même, banane mécanique. C'est voilà. Il avait fait un livre. Bon, peut-être qu'un jour je ferai une émission, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui êtes un grand moraliste, monsieur Malherbe?
Oh, un immoraliste plutôt.
C'est mieux.
Ou un moraliste si on préfère. Voilà.
Un petit arménien. Qu'est-ce que c'est?
Je joue un petit morceau arménien finalement. C'est celui-là qui est venu dans ma tête maintenant. Et il s'appelle Mouche Mouche.
C'est quoi exactement?
C'est un morceau arménien traditionnel que j'ai appris parce que j'ai eu la chance de jouer avec le regretté Jivan Gasparian. On a joué ensemble en Arménie et même en Russie en 2003. Voilà. Et c'est un morceau qu'il m'a appris, très traditionnel arménien.
Dans ce numéro empreinte, numéro 44, il y a quelque chose qui est... Alors, c'est la question que je me suis posée, qui est très touchant, c'est la fidélité de Joseph Norzalewski pour Unique Hazard et pour Hans Bellmer. Mm. Voilà. Il faut peut-être dire, bon, on avait fait une émission, là. Bon, il faut peut-être rappeler, qui était Joseph. Oui, non, mais qui est Joseph. Oui,
je l'ai encore eu au téléphone ce matin.
C'est très tendre ce qu'il écrit.
Bellmer pour Joseph, c'était un dieu vivant.
Qui c'est Bellmer pour Joseph, tiens, justement?
Concrètement, réellement, c'était Bellmer, Joseph était le kiné de Joseph pendant des années,
kiné
après...
Kiné de Bellmer.
Je me suis trompé j'ai...
Kiné de Joseph, c'est pas
grave. Kiné de Joseph, oui, Joseph était le kiné de Bellmer, pardon. Bellmer avait fait un AVC, donc il était hémiplégique, et donc il lui lavait les cheveux, il lui coupait les ongles, il s'occupait de lui, il venait plusieurs fois par semaine, et donc ils ont eu un rapport de complicité très étroit. Bellmer lui a donné beaucoup de dessins, beaucoup d'œuvres. Et Unica aussi, qui rendait visite à Bellmer. De temps en temps, elle avait des bons de sortie de l'hôpital psychiatrique où elle était. D'ailleurs, c'est lors d'un bon de sortie qu'elle s'est jetée par la fenêtre du 6e étage rue de la Plaine, là, à Nation, en bas. Dans le 20e, en bas, c'est au 11e. Et donc, elle appelait d'ailleurs le très élégant Joseph, qui restait quelqu'un de très élégant, qui est toujours en costume. Très, oui, très, très droit, c'est l'ancien sportif.
Ah oui, il est resté très classe.
Il était lanceur de javelot en athlétisme en Pologne, parce qu'il est d'origine polonaise.
Bravo,
il est resté un i. Voilà, donc Joseph est un inconditionnel de Bellmer.
Dans cette tragédie, il faut dire qu'elle se jette par le balcon, oui, et que lui, il est bloqué dans...
Il est bloqué sur son fauteuil et donc il ne peut rien faire. Et surtout qu'il y avait quelqu'un qui s'occupait, qui faisait des courses, qui est parti faire des courses, une dame, et donc elle remonte les étages de 4 à 4 en disant à Bellmer qu'elle a trouvé Unica sur le trottoir, quoi, morte, évidemment. Voilà le drame. Et ensuite, bon, Bellmer a survécu quelques années, et Joseph s'en est occupé jusqu'à la fin. Voilà.
Tu as écrit, alors bon, sous ton beau patronage, il y a Hans Bellmer qui est publié collection Bleu Turquin aux éditions Douro.
Absolument.
On avait déjà fait les... une fois, tu as eu à peu près un moment de lucidité.
C'est vrai, ça m'arrive
quant aux interprétations psychoféministes qui font de Bellmer un être indigne, elle relève à l'évidence de la cécité.
Bien sûr. On en parlait tout à l'heure.
Alors, hein,
avec Claude, hein, et de la bêtise.
Par contre, tu vois, là, je vois une photographie de la poupée Bellmer, c'est dans ce numéro d'empreinte numéro 44. Il y a quelque chose qui se passe. Tu vois, c'est un choc. Je les connais par cœur, surtout celle-là. Il y a un phénomène de la destruction, de la problématique du corps, et ça ne loupe pas, c'est un choc qui dépasse la morale, du jour. Hein.
Absolument. Ça n'a rien à voir avec la morale.
Ah. L'art n'a pas grand-chose à voir avec la morale, en général. Mais bon, et comme lui, il est vraiment un artiste du corps, il se fait taper dessus encore aujourd'hui, hein, et terriblement par les féministes, des gens comme ça, bien sûr. Ouais, bien sûr. C'est le comble de la perversion, Bellmer.
Mais je crois que ça n'a pas été aidé non plus, cette légende de Bellmer torturant Unica.
Oui, l'attachant, il y a une exposition.
Par rabbin, tu sais, il y a un psychanalyste rabbin qui a fait courir cette rumeur.
Oui, qui est toujours, toujours à l'hôpital de... qui est toujours de ce monde, non?
Je crois, oui.
Qui est, où il y a des expos, là. Je perds la mémoire avec l'âge.
Moi aussi, je perds la mémoire. Comment s'appelle le frère de Balthus?
De Balthus, ouais. Kosowski.
Kosowski. Ouais. Pareillement, il attachait madame. Il attachait madame, il y a des photos et tout.
Les barres parallèles, tout ça. Il y avait un film de Pierre Zucca qui met ça en scène. Voilà.
Et madame faisait son marché vers la place d'Auteuil, et tu la voyais passer, c'était une petite mémère avec son cabas. Alors les gens fantasmaient là-dessus, c'était...
Oui, il l'attachait en guépière, elle était encore en guépière, menottée à chacune des barres. C'était fantastique. Et il dessinait. Il y a eu un film et beaucoup de dessins, des grands formats, faits au crayon de couleur. Assez
comment beau. Tu as eu ces éléments, toi, sur...
Moi, j'ai rencontré le kiné Joseph au marché de la poésie. Il est venu me voir. Il avait fait le tour des petits éditeurs du marché de la poésie. C'était il y a 2-3 ans, je crois, quelque chose comme ça. Et il avait dit à ses éditeurs, j'ai des dessins inédits de belle-mère, est-ce que ça vous intéresse? Et ça n'avait intéressé personne. Alors, en fin de course, il était arrivé sur mon stand, il m'avait posé la même question, et alors évidemment, moi j'ai sauté en l'air, en disant, mais bien sûr que ça m'intéresse, et il m'en a donné, et je les ai publiés dans un numéro d'Empreinte, il y a, je sais pas, 4 ou 5 ans, hein, 3 ans.
Mmh. Et toi, tu as réalisé ce livre-là?
C'est la même démarche. Bon, je le connaissais, parce que nous sommes voisins, en plus, hein, nous habitons à quelques rues de l'écart, et donc il me parlait de je connaissais sa collection, j'étais allé chez lui plusieurs fois, etc., etc., il me disait qu'il ne trouvait pas d'éditeur. Bon, la collection La Bleue Turquin n'est pas faite pour faire du livre d'art, mais voyons, c'est mieux que rien, c'est ça. Pour
le livre est très bien foutu.
En plus, il est réussi. Il est réussi. Alors, j'ai tout photographié chez lui. J'ai passé une journée à photographier tous ses objets, ses dessins, etc., qu'on retrouve là dans ta revue, là, entre autres.
Et alors là, cette fois-ci, il m'a parlé d'objets que Unique Asiane lui avait laissé avant sa dernière hospitalisation. Et elle lui avait laissé un paquet que belle-mère lui a remis quand il est venu pour faire sa kiné chez lui, qui était donc de la part de Unique Asiane et qui était un paquet spécialement pour Joseph. Et donc Joseph l'a gardé. Et c'était des objets auxquels Unique attenait, qui étaient en même temps des objets symboliques. Et donc, il a gardé ce trésor d'Unique Asiane pendant 50 ans. Et il m'en a parlé, et je me suis dit, ça fait un joli sujet pour Empreinte.
C'est une tendresse infinie, en fin de compte. Il y a une tendresse,
absolument,
infinie.
Alors, il y a plusieurs objets, il y a des ciseaux, il y a...
Les fameux ciseaux, dont je ne dirai rien.
Il y a des tas de sortes d'objets différents. Il y a un kaléidoscope. Il y a quelques textes. Une photo de la poupée, voilà, plein de petits objets.
Avant d'écouter Triboulet, Monsieur Triboulet, vous nous direz quelles interventions vous voulez faire tout à l'heure. Je sais que Monsieur Coda a une santé fragile, je tiens à le révéler. C'est pas moi, c'est marqué dans le texte. Hein. C'est marqué dans effectivement, Jésus, Kiel, Juliette et Loïs, édition Doureau, La Diagonale de l'écrivain. Et ça commence ainsi, je suis arrivé au bout. Au fond de l'enfer qui a été ma vie, malade, bricolé de partout par la médecine, valve cardiaque, prothèse de hanche, ablation de la vésicule, emphysème, lichen buccal, diabète, et livré au monde aujourd'hui sans défense immunitaire, je gîte les peaux, j'imagine mon enterrement, où je serai sans doute le seul à le suivre mon cercueil. Bon, d'accord. Alors, vous êtes venu sur Onde de Choc parce qu'on va vous sauver, on va vous sauver, on va vous sauver. On a trouvé, on a enfin trouvé. Ça, c'est magnifique. Il faut à tout prix que vous alliez consulter la médecine statique de Sanctorius.
Il est beaucoup question d'excréments, ce qui me convient très
bien. Alors, c'est complètement scato.
Il est né en 1561 et mort en Venise en 36. Hein. C'est un médecin italien. Alors, c'est le premier à avoir découvert la notion de métabolisme. Voilà. Il invente le thermoscope, qui est l'ancêtre du thermomètre, et démontre que le corps humain est à température constante. Il met au point le pusiloge, qui permet de mesurer le pouls. On lui doit également l'invention du trocard, un instrument chirurgical qu'on utilisait pour les trachéotomies. En 1614, dans son livre de Statica Medicine, il expose qu'il existe chez l'homme une transpiration. C'est ça, M. Coda, qu'il vous faut. Une transpiration insensible, une perte d'eau sans sueur apparente, par évaporation directe à travers la peau, ainsi que dans la vapeur d'eau de l'air expiré. Il donne le nom de perspiration et parvient à le mesurer. Pendant 30 ans, en se servant d'une balance de son invention, Sanctorius pèse ses apports alimentaires et ses perles d'eau, car il est convaincu que la santé et la longévité résultent du maintien d'un poids constant. C'est génial.
Tu as les coordonnées de M. Sanctorius.
Il écrit un livre qui s'appelle « La médecine statique », où il expose ses théories, hein, et c'est le résultat de ses expériences. Et c'est sous forme d'aphorisme.
qui sont,
c'est étonnant.
Qui sont percutants d'ailleurs.
Donc peut-être que
quelques aphorismes.
Triboulet va nous faire quelques aphorismes.
Triboulet, allez-y, oui.
Oui, lesquels?
Au hasard, comme allez-y, et lui.
Alors voyons voir. Si ce qu'on boit et mange en un jour pèse 8 livres, on en dissipe pour l'ordinaire environ 5 livres pour l'insensible transpiration. Il y a toujours quelques variétés dans l'insensible transpiration, suivant le tempérament, le pays, la saison, l'âge, les maladies, les aliments et les autres choses non naturelles. Lorsque l'on reconnaît après l'examen de la balance que la transpiration est empêchée, on prévoit pour les jours suivants une plus abondante transpiration ou quelque évacuation sensible, peut-être un commencement de cachexie ou la fièvre. La seule transpiration insensible est, pour l'ordinaire, beaucoup plus abondante que toutes les évacuations sensibles ensemble.
Et un pour Jacques particulièrement, je sais là. Si l'on se pèse le matin avant et après l'évacuation sensible, on saura très aisément combien l'on aura transpiré durant la nuit et le poids des excréments. Tu vois, c'est quand même très important.
Je l'applique cet aphorisme tous les matins.
Où c'est que tu as trouvé ça, Claude?
Je ne sais plus, sur Internet sûrement.
Ah oui.
Mais par recoupement de différents trucs.
Oui.
Donc tu prends rendez-vous?
Je prends rendez-vous avec monsieur, le docteur Sanctorius.
Bravo.
Déjà, j'ai mis en application l'aphorisme de la pesée matinale.
Oui.
Bon, ben, alors, on a un peu... Oui,
je vais me permettre de faire une annonce.
Sur quoi? Sur Sanctorius? Vous suivez son traitement?
Pas encore, mais ça se pourrait.
Ça se voit, vous avez un corps naturel.
Ça a l'air tentant. Je voulais juste dire qu'il y a la sortie du groupe auquel je participe qui s'appelle Hadouk. Et nous avons un disque qui sort, qui va sortir le 26 octobre, qui s'appelle Le Concile des Oiseaux.
Ah oui.
Et le 5 décembre, on va jouer au New Morning. Voilà, comme ça j'ai fait mon annonce. Et maintenant, peut-être, je vais vous jouer un petit morceau chinois.
Parce qu'on fait pas sur Radio Libertaire, hein.
D'accord.
89.4.
Alors...
On répète ce que c'est beau, c'est bien.
C'est un morceau, un instrument chinois de l'Inde, de la Chine du Sud qui s'appelle Uluzi.
D'accord. Et le morceau s'appelle comment?
Uluzi Temple.
Uluzi. Et l'instrument s'appelle comment?
Uluzi.
Tout s'appelle Uluzi.
Oui, c'est Uluzi.
C'est pas compliqué.
Ah, le morceau s'appelle, oui, je l'ai appelé Uluzi Temple, parce que c'est une mélodie que j'ai faite. Mais vous savez, moi, je joue toutes sortes d'instruments du monde entier, mais en fait, je ne copie pas les mélodies locales. Je préfère que les instruments m'enseignent des instruments, des mélodies.
Vous avez une partition ou ça à l'oreille?
C'est dans ma tête.
D'accord, c'est dans ma tête.
C'est des morceaux inventés.
D'accord.
Des morceaux originaux, on peut dire.
D'ailleurs, personne ne pourrait les jouer à côté, puisqu'ils sont dans votre tête.
Bien sûr que si, vous pouvez les jouer une fois que je les joue. Je peux les écrire naturellement, mais je préfère les mettre sur un disque.
C'est ça, vous pouvez les écrire, ok.
Et ton disque, là, pourquoi ça s'appelle le Concile des Oiseaux?
Oh, parce qu'il y a une histoire d'oiseaux, vous savez. Le Concile, c'est juste un terme un peu abstrait pour dire... Je sais qu'il y a déjà la conférence des oiseaux.
Oui,
on avait fait un disque il y a 20 ans qui s'appelait Le Bal des Oiseaux.
Je veux dire, il n'y a pas de texte dedans, il n'y a pas de...
Non, c'est toute la musique avec des instruments.
Okay. Il y a le concile d'amour aussi de notre ami Panizza, qui est passé qui a été condamné par l'Église. Oui. Un texte costaud. Monsieur, vous faites ça avec la bénédiction
de qui?
Papal, vous.
Oui, bien sûr.
Assaut et la Gambade, Jacques Coda, Philippe Pichon. Oui. Et donc vous répétez, c'est aux éditions.
Ardavena.
Donc c'est un exercice, non pas. Selon vous, ce que vous avez fait dedans, c'est pas de la critique, c'est de l'humeur.
Pour ma part, oui, d'autant que si je dis que je suis polémiqueur, c'est que chaque écrivain j'ai relié chaque écrivain avec un événement de ma vie personnelle. Donc je ne suis pas rentré dans la critique littéraire. Ce qu'a fait Philippe Pichon, lui, il a une partie qui est beaucoup plus critique. Moi, j'ai à chaque fois fait de l'autobiographie à travers l'œuvre des écrivains dont je parle.
Quand vous parlez d'Albertine Sarrazin, oui. C'est vous, à l'instant T, vous lisez Albertine Sarrazin, c'est-à-dire que vous êtes là, vous avez 16 ans, vous écoutez le jazz, etc.
Absolument.
Voilà.
Absolument. Je n'en dirai pas plus.
Donc tout à l'heure, pour vous accueillir, j'ai dit que tout ça se passait par affinité.
Oui. Voilà, élective.
Élective, bien sûr.
Absolument.
J'avais demandé à Yves Buin, Yves Buin avait fait une grosse biographie sur Kerouac, et un jour je lui avais dit, mais est-ce qu'on peut écrire, après on va y revenir, on peut revenir sur quelqu'un avec qui on n'a pas une affinité. Il m'a dit, c'est impossible.
Moi, j'ai fait un texte avec...
Que
je n'aime guère.
Vous descendez un monsieur qui s'appelle Minus Henrique.
Minus Henrique, oui.
Bon, qui sait, alors déjà que...
Qui sait, bah, personne ne connaît.
Bah, moi, je le connais à cause des fesses de Catherine Millet. Il avait fait les photos.
Oui, c'est monsieur Millet, oui.
Il avait fait les photos.
Oui, il a fait beaucoup de photos de Catherine
Millet. Il y a un très beau livre de photos, d'ailleurs.
Oui, c'est un photographe qui tient la route.
Qui tient la route. Qu'est-ce qui vous a fait... Premièrement, est-ce que...
Je ne vais pas me plaindre, mais qu'est-ce qui m'a fait... Je sais pas pourquoi, nous étions presque amis, il venait à toutes mes expositions, je suis allé chez lui, et du jour au lendemain, il a décidé que j'étais persona non grata, et j'ignore toujours pourquoi. Donc je lui envoie mes livres, et il interdit qu'on en parle dans sa petite revue Art Press, qui est une revue germano-pratique. Ouais, voilà, c'était une très bonne question.
Ça existe encore ?
Je crois.
D'accord.
Je crois. Donc au bout d'un moment, ça m'a un peu... Je me suis un peu énervé, quoi. Je me suis dit, tiens, je vais écrire quelque chose sur cet individu.
Vous êtes un amoureux déçu ou pas ?
Ah, pas du tout, non, c'était par pure vengeance, par pure méchanceté.
Bah, t'as baisé avec sa femme,
Non, elle n'est pas du même âge. Elle est beaucoup plus vieille que moi.
C'est-à-dire que c'est un procès d'intention que vous lui faites.
Un procès tout court, d'intention.
D'accord,
mauvaise intention.
Attention, vous ne parlez même pas de sa littérature.
Si, un peu, parce que je dis à un moment que dans un de ses livres, il confond Baudelaire et Rimbaud, il attribue un vers de
Rimbaud.
C'est vrai ou pas ? C'est vrai, bien sûr. D'accord. À Baudelaire, donc pour quelqu'un qui passe pour une espèce de sommité des lettres françaises. Bon, et ce qui est drôle, c'est que je cite Philippe Muret, qui dit une méchante, parce que Philippe, il était très ami avec Philippe Muret, et il a découvert à la mort de Philippe Muret que Philippe Muret, dans son journal, dit les pires horreurs sur Jacques Henrique. Que c'est un sous-fifre, que c'est pas un écrivain, que etc., etc., etc. Et donc, je suis en train de lire ce journal. Et je retrouve tout ce que je pense de Jacques Henrique dans le journal de Philippe Muret. Et Jacques Henrique a écrit des comptes rendus là dans Art Press sur ce journal qu'il trouve abominable, grossier, vulgaire.
Mais voilà. Enfin, comme ce qu'il est, ça influence ce qu'il écrit.
Tu parles de
Jacques Henrique, ce qu'il est,
oui,
ce qu'il est.
Oui,
et pour un Célinien comme vous, vous comprenez que des gens qui savent qui
est... Je ne suis pas Célinien, j'aime Céline, mais je ne suis pas un Célinien au sens propre.
Vous comprenez que des gens qui savent ce qu'a été Céline et ce qu'est Céline, ne peuvent pas le lire, par exemple. Voilà. Vous prenez le même procédé, M. Coda.
Le procédé de...
C'est-à-dire, il ne vous plaît pas, ce type ne vous plaît pas, donc sa littérature va être...
C'est pas qu'il ne me plaît pas, c'est qu'il a été très désagréable avec moi. Sinon, j'ai rien contre lui. Hein, ou tout contre, je ne sais pas. Donc, il était un peu con, quoi. Et je sais, en plus, par mon éditeur... Qu'il dit qu'il ne faut pas parler de mes livres, qu'il n'a pas lu, il dit tout ce qu'écrit Coda est mauvais, etc., etc.
Donc c'est pour vous faire plaisir, en fin de compte.
Là, je me suis fait jouir, oui, comme Unica avec ses ciseaux.
D'accord. Mais vous trouvez que c'est intéressant de parler de Bobin, par exemple?
Ah, moi, je ne c'est quelqu'un que...
Ça,
c'est Philippe qui est sur Bobin. Je n'ai rien à dire sur Bobin, parce que je trouve d'une fadeur absolue.
Houellebecq, vous trouvez que c'est...
Houellebecq, c'est plus intéressant que Bobin, du
coup. Oui, c'est plus intéressant. Mais je veux dire que tout le monde en parle.
Oui, bien sûr. Mais moi, j'en parle d'une façon indifférente, puisque je fais un texte qui est censé être un texte écrit par l'intelligence artificielle, donc qui retrouve un peu le style ou l'absence de style de Houellebecq, et c'est un jeu avec Houellebecq. Donc, sinon, je ne porte pas de jugement de valeur sur l'écriture de Houellebecq. Il y a qu'Henri que je descends un peu. Hein, les autres, je les aime.
Par contre, vous avez... Ah oui, c'est ça. Ça m'a fait plaisir. Par contre, vous avez un moment de sincérité.
Ça arrive.
Envers Louis Aragon.
Oui.
Le premier Aragon.
Oui.
J'ai été très content parce que... Enfin,
l'Aragon surréaliste.
Pour une fois... attention, il y en a un deuxième qui vous plaît beaucoup. Ne mentez pas.
Oui.
Et ce qu'il a fait sur Matisse.
Oui, absolument. C'est magnifique, un très grand livre. Ouais, très...
Alors, il faut peut-être dire ce que c'est. On est en 40.
Oui, c'est ça. Il est à Nice.
Il est à Nice.
Il est avec Elsa. Ils sont dans une petite chambre d'hôtel dans le Vieux-Nice. Là.
Et il écrit 5 parties, à peu près, je crois.
Oui. Il rencontre Matisse.
Ouais, sur Matisse.
Voilà,
et c'est un texte élémentaire sur la peinture.
Matisse fait son portrait qu'il trouve atrocement dissemblant et pas du tout ressemblant. Et au fil des ans, il va trouver que, comme Picasso peint Gertrude Stein, en fin de compte, les gens ressemblent à leur portrait au fil du temps. Oui. Et Matisse, Aragon va se retrouver dans les portraits.
Alors ça, c'est Matisse. Un livre à lire, hein, Matisse d'Aragon.
C'est un des grands livres d'Aragon et un des grands livres sur un artiste, oui.
Et vous avez cessé de me décevoir totalement parce que vous avez trouvé avec Aragon et la défense de l'infini, c'est-à-dire le Conte d'Irène.
Ah oui, c'est des livres fabuleux. Ça.
Des livres fabuleux.
Oui, ouais, bien sûr.
Voilà, bien sûr.
Ouais,
oui.
Ouais, 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 ouais.
Ça, c'est des choses.
C'est des choses qu'il faut lire, relire et s'en inspirer.
Et là, vous signez Coda, c'est-à-dire vous.
Oui.
Autrement dit, Jean Foutre la Bite.
Jean Foutre la Bite, qui est
un personnage
des livres dont tu viens de parler.
De Louis Aragon.
Bien sûr, Jean Foutre la Bite. Oui.
Vous savez que Sanchez Perce, et on en parle dans ce livre, disait j'habite mon nom. J'habite mon nom, voyez-vous.
Oui.
Alors, habiter Coda, vous voyez ce que je veux dire. Habiter Jean Foutre la Bite, c'est, voilà.
C'est les plaisanteries qu'on faisait.
C'est beaucoup plus drôle qu'habiter Philippe Pichon. Hein. Entre vous et moi. Bon, on est bien sur Radio Liberté 89.4. Pendant que Monsieur Triboulet pense à une lecture qu'il va pouvoir nous faire. Alors, franchement, vous savez que j'adore Gerasim Luka. J'ai eu toujours des bons rapports avec Gerasim Luka. Là, soit je suis obscur, je ne comprends pas ce qu'il faut comprendre dans ce sémaphorisme, ces photos. Où est l'intérêt que...
C'est pas un intérêt, c'est que Luca il allait acheter des albums de photos au plus et il les détournait. Voilà. Et donc il rajoutait des textes, il rajoutait des dessins, il rajoutait des collages. Il faisait ça avec des cartes postales aussi, des cartes postales anciennes. C'est tout, il n'y a rien d'autre que...
Il n'y a pas d'intérêt parce que j'ai cherché.
C'est un album détourné, d'accord. Un album de photos détournées. Voilà.
J'ai cherché un sens, j'ai cherché quelque chose, j'ai pas trouvé.
Il y a un sens poétique sûrement pour Gerasim Luka. Mmh.
Monsieur Triboulet, vous voulez vous préparer à une lecture ou pas? Vous voulez rien faire aujourd'hui?
Non, il y a une lecture là.
C'est laquelle?
Le cocher colombien.
Ah, j'ai
tu
adoré. Oui, au contraire.
Bon.
On se fait un tout petit peu de musique.
Oui.
Hein, et puis on fait le cocher.
Oui,
ah, j'ai adoré.
Oui. Alors cette fois, je vais jouer une ocarina. Tiens, j'en connais quand même pas mal cet instrument italien. Thank you.
ça veut dire quoi, Carina?
Ça veut dire petite voix.
Petite voix.
Oui, parce que ça, c'est le nom générique, c'est la, le flûte globulaire, qui existe depuis des milliers d'années dans tous les pays du monde. Aussi bien Chine, Amérique du Sud, ouais, surtout Afrique, ouais. partout. Ouais. Et quand elle a cette forme qui est assez connue maintenant, ça, vous voyez, ça ressemble à un bec d'oie.
Ouais.
C'est pour ça que ça s'appelle ocarine.
Ou un sèche-cheveux aussi.
Peut-être, oui, ou un sèche-cheveux, même un revolver. Bon, ben, bon.
Nous avions un ami qui venait jouer ici, Jeff Sicard, comme ça, et qui,
Jeff Sicard.
Et qui avait une...
C'est, oui, magnifique. C'est un ami, bien sûr.
Oui, vous le connaissez pas. Qui avait une... Il faisait, alors, lui, même des tubes, il avait une conque.
Oui, bien sûr, il joue bien de la coupe.
Voilà. Ouais, il a beaucoup fait souffrir Monique, d'ailleurs, je m'en souviens.
Ah oui,
Monique a beaucoup souffert. Hein.
Avec sa coupe.
Avec tout. Monsieur, vous êtes mieux élevé. Vraiment, il avait son téléphone. Et son téléphone se mettait à sonner en plein, etc. Bon, ça, c'était pas trop grave. Déjà, Monique faisait des bons comme ça. Un jour, elle est passée par l'autre côté de la vitre. Mais surtout, on n'arrivait pas à l'arrêter. On n'arrivait pas. Alors, il a fallu le briefer au fil des années. Non, c'était quelque chose. Bon.
Bon, très monsieur. Bon,
oui, magnifique.
Très beau.
Oui, très beau. Hein, c'était beau, hein. Non, non.
Oui. Oui.
Monsieur Triboulet, allez-y.
Le cocher Collignon, extrait de Les causes célèbres, année 1860.
Voilà, c'est une cause célèbre du 19e siècle.
Le 16 septembre 1855, monsieur juge, directeur de l'école normale de Douai, venu de Paris pour quelques jours, prit sur le pont de la Concorde une voiture de remise qui le conduisit, ainsi que sa femme et sa fille, à Auteuil, près de la grille du bois de Boulogne. Arrivé là, monsieur juge donna au cocher les 3 francs qui étaient le prix de la course, mais celui-ci réclama 5 francs, prétendant avoir droit à 20 minutes pour le repos du cheval et à une indemnité de retour, le tarif imprimé des voitures de place démentait l'assertion du cocher. Toutefois, celui-ci insistant, monsieur juge donna les 5 francs, mais non sans avertir le cocher qu'il ferait connaître cette exigence à monsieur le préfet de police. Le lendemain, en effet, dans une lettre fort modérée, monsieur juge exposa les faits à ce magistrat. « Ma réclamation, disait-il, a moins pour but de me faire rembourser ce qui peut m'avoir été pris en trop, si toutefois le cocher a dépassé son tarif, que d'empêcher les conducteurs de voitures d'abuser de l'ignorance des étrangers qui viennent visiter Paris. » Le cocher, dont le numéro était indiqué dans cette réclamation, fut mandé à la préfecture de police pour le samedi 22. C'était un nommé Jacques Collignon, âgé de 49 ans, né à Beuville, Moselle, et demeurant impasse du Maine, numéro 12. L'employé, préposé au contrôle de la fourrière, donna lecture à cet homme de la lettre de monsieur juge et l'invita soit à restituer les 2 francs perçus en trop, soit à justifier sa prétention, soit à s'arranger avec le plaignant. Le cocher Collignon opta pour la première alternative et promit à l'employé de lui apporter bientôt un reçu des 2 francs. Il demanda s'il serait mis à pied pour ce fait. L'employé lui répondit qu'il l'ignorait. Le 24 septembre, Collignon se présenta à l'adresse indiquée chez M. Vincent, rue d'Enfer, numéro 83. C'est chez cet ami que logeait M. le juge. Reçu dans la salle à manger par M. le juge, Collignon lui dit fort poliment qu'il venait restituer les 2 francs, objet de la contestation, et qu'il demandait un reçu. Monsieur juge se disposa à rédiger le reçu et déjà, il en avait tracé les 2 premiers mots. Je sous-signais lorsque Madame juge, sa fille, Madame Vincent et la fille de cette dernière quittèrent le salon où elles étaient réunies pour demander à Monsieur juge une adresse dont elles avaient besoin. Au moment où Monsieur juge levait la tête pour répondre à cette demande, Collignon déchargea à bout portant un de ses pistolets sur M. Juge, qui fut mortellement atteint à la tempe droite. Madame Juge s'élance au secours de son mari, et ne comprenant pas encore toute l'étendue de son malheur, se penche sur lui. « Ah, mon ami, mon ami !» Collignon tire sur elle un second pistolet, dont la charge effleure seulement la partie supérieure du cou. La balle va se fixer dans la boiserie. Au cri poussé par sa nouvelle victime, Collignon croit l'avoir atteinte et tournant sur lui-même avec un air de froide satisfaction, dit « Je suis vengé ». Il descend tranquillement l'escalier, laissant ses armes sur le parquet. L'alarme, cependant, est dans la maison. Madame Vincent, folle de terreur, s'est élancée dans l'escalier en criant au secours. Au bruit des détonations, un locataire du rez-de-chaussée s'inquiète et, voyant descendre une sorte de paysan vêtu d'une blouse bleue, lui défend de sortir, car sans doute un crime vient d'être commis. « Ne cherchez pas plus loin, » dit avec calme le prétendu paysan qui n'est autre que Collignon. « L'assassin, c'est moi. » Ce locataire du rez-de-chaussée n'était autre que le grand philosophe Pierre Prudhomme, naguère représentant du peuple, alors moins connu pour ses belles études d'économie politique que pour son fameux axiome « La propriété, c'est le vol ». L'assassin, qui ne cherchait pas à fuir, fut arrêté par le sergent de ville Henri, conduit devant le commissaire de police et plus tard devant monsieur le juge d'instruction Cralaille, il avoua son crime avec une froideur cynique, ne manifestant qu'un regret, celui d'avoir manqué sa seconde victime. Il raconta qu'après la discussion d'Auteuil, une pensée de vengeance lui avait envahi le cœur. En sortant de la préfecture de police le 22 septembre, il avait acheté 2 pistolets, de la poudre, des balles et des capsules. Il s'était rendu à Pantin, où habitait sa femme, qu'il avait abandonnée avec ses 4 enfants. Là, rencontrant 2 de ses fils, il leur avait annoncé qu'il allait quitter la France. Et leur avait laissé voir la crosse d'un pistolet. Le 24 au matin, Collignon avait vendu son chétif mobilier et avait annoncé à son concierge de l'impasse du Maine qu'il se disposait à s'embarquer. Interpellé sur les motifs de son double crime, Collignon déclara n'en avoir pas eu d'autre que la plainte de monsieur juge. Il fallait donner une leçon aux bourgeois qui exploitent l'ouvrier. Mais ce n'était pas là, objecta le magistrat, un motif pour tuer les gens. Qui parlait de vous mettre dans la misère? Vous aviez exploité monsieur juge. On vous faisait rendre ce que vous lui aviez pris en trop, voilà tout. Et la femme, que vous avait-elle fait? « Oh, celle-là, » répondit Collignon, « elle l'avait gagnée plus que lui. C'est elle qui l'excitait à se plaindre au préfet. » On ne put tirer autre chose de cet homme. Il paraissait au reste résigné au sort qu'il s'était préparé. « On me coupera le cou, » répétait-il, « mais c'est égal. Les bourgeois y regarderont à 2 fois maintenant avant d'exploiter un ouvrier. » L'instruction, sur des bases aussi simples, fut rapidement terminée et l'affaire vint à la cour d'assises de la Seine le 12 novembre 1855. L'audience est présidée par Maître Perrault de Chezel. Maître Saillard, avocat général, représente le ministère public. Maître Maurice est désigné d'office pour défendre Collignon. On introduit l'accusé. C'est un homme de taille moyenne, vêtu d'une blouse bleue, portant au col une cravate blanche. Ses cheveux sont noirs et touffus. Ses favoris, également noirs, paraissent être l'objet de soins attentifs, et Collignon les frise de temps en temps du bout des doigts, avec quelque complaisance. Le teint est haut en couleur, les yeux ardents, l'expression de la physionomie dure et résolue. Il prend place au banc des accusés avec un calme et une aisance un peu théâtrale qu'on ne rencontre d'ordinaire que chez les vieux habitués de la cour d'assises. Il est donné lecture de l'acte d'accusation. Ce document, après avoir apporté les faits que l'on sait, constitue et conclut en ces termes « Comment Collignon a-t-il pu commettre un crime pour un tel motif ?» Voilà tout le procès. Les faits sont simples, clairs. L'accusé avoue, rien n'est douteux, ici pas de lutte possible. Le résultat est connu à l'avance. Monsieur l'avocat général Saillard n'a pour développer les charges de l'accusation autre chose à faire qu'à raconter, à montrer, à redire ce qui s'est passé, ce qu'on vient d'entendre. En présence d'une préméditation cyniquement avouée, il demande au juré un verdict purement et simplement affirmatif qui ne saurait mitiger une déclaration de circonstances atténuantes. Maître Maurice n'a qu'une ressource pour présenter la défense de Collignon. Et cette ressource, on l'a déjà devinée, c'est la folie. Rappelant la disproportion incompréhensible qui existe entre la discussion d'Auteuil et le double crime, le défenseur croit que la justice peut être satisfaite par une punition atténuée. Collignon parle avec rage de l'intention qu'auraient eu les époux juges de le réduire à la misère. Or, on vient de l'entendre, tout se réduisait à 2 francs qu'il fallait rendre. Il n'était même pas question d'une peine quelconque à infliger au cocher. Et si une peine avait été jugée nécessaire, elle se serait réduite à une mise à pied de quelques jours. Et Collignon parle de ruine, de misère. Collignon est donc fou. Alors Collignon, se levant, crie d'une voix forte à son défenseur « Ah mais je ne suis pas fou, entendez-vous » Monsieur le Président résume ses courts débats. Les jurés se retirent pour délibérer et reviennent bientôt avec un verdict affirmatif sur toutes les questions, muet sur les circonstances atténuantes. En conséquence, la cour condamne Collignon à la peine de mort. Monsieur le Président s'adresse à Collignon. « Vous avez 3 jours pour vous pourvoir en cassation contre l'arrêt que vous venez d'entendre. » Collignon répond d'un ton indifférent. « Oh, ce n'est pas la peine, allez. » Malgré la forfanterie de son attitude, Collignon se pourvut en cassation. Transféré à la prison de la Requête, il affecta jusqu'au dernier jour la plus grande indifférence, et ce fut sans émotion apparente qu'il apprit le rejet de son pourvoi. Le 6 décembre 1855, il monta d'un pas ferme sur l'échafaud et regarda avec curiosité l'instrument du supplice. Le 11 avril 1856, le tribunal civil de la Seine était saisi par la veuve et la fille de Monsieur Juge d'une demande en 50 000 francs de dommages et intérêts dirigée tant contre les héritiers Collignon que contre Monsieur Besson, loueur de voitures, civilement responsable. Maître Senard, avocat de Madame Juge, soutint contre Maître Nogent Saint-Laurent, avocat de Monsieur Besson, le principe de la responsabilité des maîtres à l'égard de leurs domestiques et préposés, et le tribunal, jugeant que le fait dommageable s'était produit dans l'exercice des fonctions du préposé de Monsieur Besson, condamna ce dernier, conjointement et solidairement avec les héritiers Collignon, a payé à Madame Veuve Juge, comme tutrice de sa fille, une somme de 10 000 francs.
Formidable.
Oui, mais c'est formidable, mais ça en dit plein de choses.
Ah ouais.
Ça en dit plein de choses. Ça m'a fait penser, tu sais, au film avec Galabru et... Ben, vous t'y mettras après. Le juge et l'assassin.
Tavernier. Hein?
Oui, Tavernier. Tu l'as en tête, ce film magnifique.
Noiret.
Hein, c'est, ça finit par un chant sur la commune. Hein, je ne sais pas si tu te souviens, il y a un chant de la commune à la fin, comme quoi le prolétaire, il comprend rien, il a des principes, mais il ne comprend pas grand-chose. Il va jusqu'à l'absolu, comme ça.
Ah ouais, mais c'est exemplaire.
Hein. Exemplaire.
Chapeau, Collignon.
Ah oui, Collignon, il est bien, exemplaire. Là. Ça, il est bien, Collignon.
D'ailleurs, c'est un sacré personnage. Et en fait, je pense que peut-être le fait d'appeler les cochers Collignon, maintenant, on les appelle Collignon. Un Collignon, c'est un cocher.
D'accord.
Eh ben, c'est peut-être qu'il est passé dans la légende, d'une certaine manière.
Absolument. Oui.
Voilà.
Petite parenthèse, il y a juste à 300 mètres d'ici, à 300 mètres dans la rue, comme ça, une plaque qui date de je ne sais pas quand, où c'est marqué « Taxi Fiacre ».
Ah.
Et ça existe encore.
Ouais.
Voilà. Merci, Didier. Tout petit. C'est quand le concert, c'est quand?
5 décembre.
5 décembre, oui. Ça, faut quand même dire où.
New Morning.
New Morning, à quelle heure?
À quelle heure 8h30, je pense.
Oui, d'accord, c'est toujours à ces horaires-là.
Rue des Petites Écuries.
Vous avez un terme dont vous avez horreur, et Claude aussi, c'est le mot plasticien, je ne le dirai pas.
Oui.
Mais vous qui faites des portraits, qu'est-ce que vous pensez de, justement, des.
Ces
pages.
Oui, j'ai vu, j'ai regardé avec attention.
Ces pages 28.
Attention, surtout que c'est.
Ces grimaces, là, ces grimaces.
C'est épouvantable, ça... c'était ces actes de torture, la plupart du temps. Oreilles percées, je ne sais pas ce qu'il fait, là, les papillotes, il enlève les amygdales.
C'est bien, hein, moi. Qu'est-ce que.
Après,
qu'est-ce que...
il arrache des
qu'est-ce
dents.
Qu'est-ce que vous en pensez, M. Codard, au niveau.
C'est très adroit.
C'est très adroit.
Un grand dessinateur.
Ouais. Parce que tout est douloureux, je sais pas, rien qui est papillote. On a l'impression qu'il lui arrache le cou ou qu'il lui met un taser dans le cou.
Je
ne
sais pas ce qu'il va. Il s'apprête à lui arracher les amygdales, je pense, non? Les papillotes, c'est ça? Je ne sais pas.
Bon, Monsieur Codard, avant qu'on se quitte, donc c'est Assaut et à Gambade, Jacques Codard, Philippe Pichon, et on est toujours aux éditions Arnevena. Vous avez commis Jésus, Juliette, Héloïse, là, c'était je ne sais pas en quelle année, c'est pas grave.
Et c'est un livre qui a peut-être été traduit en espagnol une édition mexicaine.
Et comme vous avez parfois des bribes de cohérence, pas très souvent.
C'est rare.
Votre livre finit par Inspecteur Maigret.
Par Simenon.
Et justement, dans ce livre, Assaut et à Gambade, vous faites un clin d'œil sympathique à Simenon, non?
Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Ce qui n'est pas le cas de je crois que Philippe n'aime pas trop. Je reviens sur Bobin. Hein. Philippe Pichon en dit du mal. Hein. Il appelle son article Bobin ou le style nouille. Hein.
Oui, mais ce n'est pas une raison pour perdre du temps à dire de la parler de ces gens-là.
Oui, mais c'est agréable quand même de dire du mal des gens.
Donc, vous revenez à Simenon.
Oui. Je ne me souviens plus du tout. Oui.
En faisant le...
Je parle de Pigalle et de Pigalle. Ma jeunesse à Pigalle.
Et de la chambre bleue aussi.
Et La Chambre Bleue, qui est un très beau livre, et surtout un très beau film de Mathieu Amalric.
Très bien.
Qui est très érotique. Et oui, c'est un film qui m'a beaucoup impressionné. Pourtant, je ne suis pas un adepte d'Amalric. Mais là, je trouvais que c'était très, très, très bon. Du moins, son film est réussi, de mon point de vue.
Mais au niveau de la littérature, ceux qui veulent se pencher, trouver ces livres qui ne sont pas ceux du commissaire Maigret, mais les Simenon. Oui. C'est souvent splendide.
C'est ce que dit Philippe Pichon.
Il
préfère les romans sans Simenon que.
Et là, Michel Blanc, qui vient de mourir, là, a tourné un Monsieur Hir.
Oui.
Alors, il y a Monsieur Hir, je ne sais pas si vous avez vu le film, qui est, pour moi, je voudrais bien le revoir, mais surtout, il y a le texte initial, Les fiançailles de Monsieur Hir, qui est une merveille.
Non, c'est un très beau défi.
Merveille. Si vous le trouvez, c'est pas réédité. Hein. Les fiançailles de Monsieur Hir, c'est absolument super.
Mais les Maigret, ils les écrivent en 3 semaines. Alors, effectivement, c'est pas alimentaire. Parce que ça
c'était
reste...
alimentaire, quand même.
Oui, bien sûr.
Claude Brabant, j'étais traité de feignant, je ne sais plus par qui, par une dame en cabine, c'est fort possible. Oui, rigolez, madame. Rigolez. J'ai pas eu le temps de lire, avant qu'on se quitte, Jean-Baptiste Gresset, dont j'ignore absolument tout.
Je connais bien.
Vévert. Poème Badin, 1734, c'est quoi?
Oui. Tu connais bien parce que c'est un amiénois, comme ma famille du côté de mon père. C'est un Picard du 18e siècle, oui. C'est ça. Et Ververs, c'est l'histoire d'un perroquet, hein, c'est
oui.
ça? Un perroquet. Perroquet
dans un couvent.
Dans un couvent et qui ensuite va sur un bateau avec des marins.
Voilà,
il apprend un vocabulaire épouvantable.
C'est un perroquet qui connaît tous les textes des prières, les Ave Mariales et tout ça.
Voilà.
Quand il est dans le couvent,
oui,
et donc il est adoré parce qu'il sait tout, et il est prêté. Enfin, il y a des sœurs d'un autre couvent vers Nantes qui voudraient bien connaître ce perroquet qui a une célébrité extraordinaire, et donc elles se le font envoyer. Il prend le bateau.
Oui, et là il apprend autre chose.
Parce que sur le bateau il y a des soldats, il y a des putes, il y a.
Magnifique.
Voilà. Et donc le langage n'est plus du tout le même.
Oui.
Et donc il apprend tout ce nouveau langage, et quand il arrive au couvent à Nantes, et ben il. Voilà, c'est des morbleus, nom de Dieu.
Bon, je vais le lire.
Donc c'est un texte magnifique. Et c'est un poème qui a été réédité jusqu'en 1945. Et puis qui n'a plus été réédité depuis. Ça a été un best-seller pendant deux siècles, quand même.
Et Gresset, oui, était académicien, etc. Et il a eu, il y a une particularité, il a été défendu par Robespierre. Le jeune Robespierre a écrit une thèse qui a été publiée, Défense et illustration de Jean-Baptiste Gresset.
C'est vrai ? Ah oui, oui, absolument. J'aimerais bien lire
Oui. Je sais, ça doit être trouvable.
Oui, absolument. Oui, voilà. Plus sympa au début qu'à la fin, Robespierre.
Et pourquoi il était attaqué
Parce qu'il y avait un concours, je crois, tous les ans. À Rouen, je sais pas si c'est, lui il est picard, mais bon. Et personne n'était élu comme meilleur écrivain ou poète, etc., etc. Et donc Robespierre en a eu assez et a écrit donc une défense de Gresset pour qu'il obtienne ce prix.
Ah d'accord.
Mais tu sais qu'à l'époque ils sont nombreux à être passés par là. Saint-Just a écrit aussi un texte en vers
érotique. Oui, qui est très mauvais.
Qui a chié. Mais c'est des vers qui se succèdent comme ça. Oui. Voilà. Et donc c'est comme ça. Je crois que Desmoulins doit être passé par là. Tout le monde s'y est mis. Hein. Bon, en quatrième de couverture, on va clore là-dessus. C'est magnifique. Hein.
Oui,
c'est Trogne.
Oui, c'est le même.
C'est Trogne.
Boigny, il s'appelle.
Hein ?
19e siècle.
19e Boigny. Siècle.
Boigny.
Hein ? Voilà. Monsieur Kodak, vous avez vu en quatrième de couverture ?
Oui. Je ne ferais pas mieux. Hein. Sans doute aussi bien, mais pas mieux. Voilà.
Vous avez déjà fait un aveu la dernière fois, mais un peu plus modeste.
Oui.
Vous avez dit simplement cette phrase : j'aimerais que mon trait soit celui de belle-mère.
Ah oui.
Là, c'était pas du chiffre figuratif, c'était de la lucidité. Alors, on voit tout le monde. Vous allez vous voir le samedi prochain et dimanche prochain au Blanc-Manteau.
Oui.
Hein, empreinte numéro 44. Bah, vous verrez aussi les gens d'Intoto qui va sortir, là. Théoriquement, si tout va bien, mardi. Mmh. Hein, voilà. Alors, monsieur Coda, vous avez. Maintenant, vous allez voir le docteur, je ne sais plus comment il s'appelle, très bien.
Oui,
là.
Avec ma balance. Et puis le poids de mes excréments.
Et voilà, tu surveilles le poids de tes excréments.
Le poids de vos excréments, là. Vous allez aller beaucoup mieux, j'en suis persuadé. La médecine statique de Sanctorius. Vous avez en guise de publié Pronostic vital engagé.
Oui.
Aux éditions Sans Crispation.
Oui.
C'était dédié à Léa Seydoux. Elle vous a écrit ou pas ?
Non, je suis très déçu.
Les muses ne sont pas
gentilles.
On m'a dit qu'elle serait choquée par mon livre. Donc,
d'accord. Et Kim Novak non plus ?
Non, je n'ai pas de nouvelles de Kim.
Ça marche plus.
Non, Kim. J'ai son soutien-gorge à la maison. Je suis content tous les matins.
Bon, Didier Malherbe, est-ce qu'il n'y a pas dans Facili, aux éditions Le Castor Astral ?
Oui.
Et puis, on va tous au New Morning.
Le 5 décembre.
5 décembre, c'est d'accord, très bien. Ouais. Bon, Jacques Codal, malheureusement, j'ai déjà dit Jésus, Kiel, Juliette et Héloïse, édition Doro.
Ouais.
Hein, ah oui, ça c'est bien. Enfin, j'ai trouvé un bon livre. Joseph Dozarzewski, Hans Bellmer.
Surtout la postface. Hein, la postface est signée Jacques Codal.
Oui, c'est Codal, mais surtout le livre, je réitère, est très bien fait.
Et les photos sont de Jacques Codal également.
sont magnifiques, c'est très émouvant. Voilà.
Ouais.
Voilà. Et puis à Sceaux et à Gambal, Jacques Codal et Philippe
Charles d'Avena, ouais. Avec une pelletée d'écrivains, Aragon, Joseph Deltay.
Vous apprendrez qui est Jean Foutre la Vite, c'est quand même quelque chose.
Et sans mélanger Jo Bousquet, Colette. Donc, tu vois, il y a du. Il y a Pierre Lepère aussi, qui était un ami. Qui est
bah Didier, merci, c'était très gentil. On a tous apprécié, je crois. Bah, faudra revenir un jour
merci
quand
à
même.
Vous. Oui,
ah, d'accord. Et puis bien sûr, tout le monde dit merci à Monique parce que
elle
est accrochée.
Monique.
Elle est accrochée. Voilà.
Elle est toujours là.
Pour sur Onde de Choc, sur Radio Libertaire au 01 43 71 89. Merci Monique, bye bye. À bientôt.
Papa, mais, Rumbi, ça, ouais, ni maman. Mele lango mamo mba mamo bochi Baba wale na mwana ngebu meba Tuat 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 Yola Baba kwa fulu memuka Sabizu weba Tunga tuwa ibele Makame na belu we mama Tobo na babutu Kutu kwa mugebe Mepolo mbedi Maboho mena yoto Mena rekneto yete Mbe ye mame Wengenya wewe diante Angwebane Wepiri mukase We mukasa remboga Tuat 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 Oh Tuat Tuat Kondo sahabo misa yelongo busa busu taske mwane timutu mumute mama busale akibavome mwana mema isukushangwe mshoshe kele tuat 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 Oh, do what? Do what?
Bingo, Zenzo, Matsono, Inyungu, Musang, Bakem, Bangong, Tumbu, Lukumu, Bidib. Mashako mamo tuat 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 tuat
Moi là, sirotant mon vin, tombé de zénith, on a dire. Moi qui me prétends écrivain, eh bien ce soir, j'ai rien à dire. Je jette une pièce à la patronne, et puis j'attrape ma veste en cuir. Un client fait « Bonne nuit, bossonne ». Je réponds rien, j'ai rien à dire. Et je dérive sur les trottoirs, les réverbères ont d'affreux rires. C'est fou ce que la nuit devient noire. Putain, quand on n'a rien à dire. Ce n'est pas à coup de silence que l'on se bâtit son empire. Tels sont les mots de ma conscience. Elle parle, et moi j'ai rien à dire. Comme un violeur prend position, je sors mon stylo pour écrire. Mais on ne viole pas l'inspiration. Non, rien à faire, j'ai rien à dire. Les rues défilent et j'accélère. Je songe à me reconvertir. C'est navrant, mais de quoi j'ai l'air? Moi, l'auteur qui n'a rien à dire. Et j'entends les étoiles qui causent La poésie doit me maudire. Tant de sujets, de nobles causes. Et moi, moi qui n'ai rien à dire. Je croise des feux, des McDonald's. Cette nuit va-t-elle enfin finir? Et je songe à Scott Fitzgerald. Bordel, pourquoi j'ai rien à dire? Et je cours à travers la ville. Je cours pour m'étourdir. Pour oublier l'état servile de celui qui n'a rien à dire. Oui, je cours à travers la ville. Je cours pour m'engloutir. Qu'elles sont cruelles et qu'elles sont viles. Ces nuits où l'on n'a rien à dire. Ces nuits où l'on n'a rien à dire.
Fils du vent des gorges du Hogar, le chanter si fort, ce n'est pas le hasard. Tout commence d'abord, tout balayé par le vent sablé, c'est propre et sans papier. Les darboukas clac clac qui clac clac à chaque pas. Des chevauchées folles, des fantasia, SLM et je t'emmène, alléluia. Je suis griot du village, je m'appelle Contaminé. Fils du vent des gorges du Hogar, le chanter si fort, ce n'est pas le hasard. La de gare du Nord à Saint-Lazare, j'ai tout balayé, c'est propre et sans papier. Les darboukas clac clac qui clac quand je suis chez moi. Les voisins s'affolent du balcon parabole. SLM et on m'emmène, alléluia. On m'a balayé du quartier, c'est propre et sans papier. Fils du vent des portes du Qatar, le chanter si fort, ce n'est pas le hasard. Tout commence dans les palais dorés. J'ai tout balayé, c'est propre et sans papier. Les darboukas clac clac qui clac quand le chèque est là. Les chevauchées folles de 4x4 jusqu'à Dubaï. SLM et on m'emmène, alléluia. Faire le griot du village, c'est top, tout est payé. Fils du vent de Georges et du dollar, le chanter si fort, ce n'est pas le hasard. Tout commence, G.I.s. Au chômage, hi-hi, hi-ho, je cherche du boulot. Mon bazooka tape, tape, qui tape, tape sur tous les toits. De Bagdad Pipeline jusqu'aux USA. SLM et on m'emmène, alléluia. Balayer le monde entier, contrôle ethnique, ok. Fils du vent des gorges du Hogar, fils du vent de Georges et du dollar, fils du vent des gorges du Hogar, fils du vent de Georges et du dollar.
quitté son nid à la recherche d'un homme à aimer. Merveilleux de répondre à une invitation en disant nous. Oh, paresseux de vivre dans un duplex à Montmartre dont chaque mètre appartient aux deux. C'est tellement mieux que 10 pour 1. Malheureux est-on quand le rêve s'écoule dans un sablier brisé? Débranche le téléphone et pleure dans un lit une place. Monstrueux. L'effort de dire que de toute manière tout va bien. Tellement mieux que 10 pour 1. Toujours mieux que rien.
Dans la nuit, au fond du puits, quelqu'un qui pleure, quelqu'un qui meurt. Es-tu Claudel, Camille ou Paul? Des voix m'appellent, des voix l'épaule. J'écris les mots qui sonnent et qui m'abandonnent, et les cris qui rebondissent au fond du précipice. Tiens-moi là. Es-tu Céline, une guerre de trop, regret de Chine? Es-tu Malraux? Es-tu l'auteur de Terre des hommes? Artaud qui meurt, seul sans opium. au fond du précipice.